voir pour savoir ce qu'il se passait concrètement pour Prena, pour sa destitution. Est-ce que les choses avancent enfin ?
Je vais être clair avec vous, peut-être un peu brutal, mais enfin, je pense que le père Prena sera et restera toujours prêtre.
Donc vous refusez de nous considérer comme des victimes ?
Bien sûr que si.
Moi, il me reste une seule solution.
Quoi ?
Porter l'affaire devant la justice.
Vous savez que c'est aujourd'hui inutile. Vous êtes prescrit. Et selon mes informations, aucune personne non prescrite ne s'est déclarée. Alors, en existe-t-il ? Je ne le crois pas, d'après les paroles de Prena.
Les paroles de Prena ? Mais comment vous pouvez le croire ?
Mais pourquoi toujours remuer ces vieilles histoires ?
Histoire 2, Patrick Boucheron sur France Inter.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. De vieilles histoires, vraiment ? C'était en 2019 et le film de François Ozon, Grâce à Dieu, dont vous venez d'entendre un extrait, claquait déjà comme un coup de tonnerre. On y entendait la voix des victimes d'un prêtre lyonnais, Bernard Prena, accusé d'agression sexuelle sur des enfants de sa paroisse, des scouts, dont il était l'aumônier. Prena fut condamné pour ses crimes l'année suivante, de même que le cardinal Barbarin l'avait été en première instance pour ne pas les avoir dénoncés. La majorité des faits, grâce à Dieu, sont prescrits, avait déclaré l'archevêque de Lyon. Le temps de la justice des hommes n'est pas celui de la grâce de Dieu, et le temps des réparations outrepasse sans doute celui de la prescription. C'est bien cette question que pose avec acuité le rapport de la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église que son président, Jean-Marc Sauvé, vient de rendre le 5 octobre de cette année. La réalité qu'il met à jour est terrifiante, glaçante par son ampleur, sa profondeur, sa gravité. Au point que les catholiques se demandent si l'Église ne traverse pas la crise la plus grave de son histoire. Pourquoi toujours remuer ces vieilles histoires ? Mais parce qu'il n'y a pas de vieilles histoires. Il n'y a que l'histoire, qui, même quand elle est ancienne, laisse des traces, durablement et profondément, comme des blessures vives. La parole libérée, tel était le nom de l'association des victimes de Bernard Prena. Mais comme il est long et difficile de libérer la parole quand c'est l'Église comme institution et depuis si longtemps qui impose le secret. Nous en parlons aujourd'hui avec la sociologue Céline Béraud, bientôt rejoint par le médiéviste Arnaud Fossier. Céline Béraud, bonjour.
Bonjour Patrick Boucheron.
Vous êtes sociologue, directrice d'études à l'École des hautes études en sciences sociales et spécialiste du catholicisme français. Vous venez de publier dans la collection La République des idées, aux éditions du Seuil, le catholicisme français à l'épreuve des scandales sexuels. Alors, c'est une sociologie du scandale que vous avez menée, davantage qu'une sociologie des abus sexuels mais dans l'Église. Mais malgré tout, vous en êtes spécialiste, vous travaillez sur ce phénomène depuis bien longtemps. Vous avez été surprise par l'ampleur des révélations du rapport Sauvé ?
Pas vraiment, parce que je pense que déjà beaucoup de révélations avaient éclaté au moment où justement le scandale commence à monter en France, c'est-à-dire dans les années 2018-2019. Il y a une sorte d'accumulation, de publicisation d'affaires qui parfois d'ailleurs pour certaines d'entre elles étaient déjà connues. Mais qui tout à coup pénètre le débat public et pénètre le débat intra-catholique. Il y a un phénomène de médiatisation qui est porté par des associations de victimes comme la Parole Libérée qui joue le rôle de lanceuse d'alerte.
Oui.
Qu'on évoquait à propos de l'affaire Prena. Il y a aussi des journalistes qui participent de cette prise de conscience. En interne au monde catholique, le livre de la journaliste de la Croix, Isabelle de Golemin, a eu un rôle assez important de prise de conscience en interne. Et puis, début 2019, il y a le film de François Ozon, qui est beaucoup vu aussi par les catholiques. Il y a le documentaire d'Arte sur les religieuses abusées qui produit une immense émotion collective dans le catholicisme français et suscite un début de mobilisation.
Oui. Donc 2019, c'est déjà une première date. On va essayer d'en trouver plusieurs, Céline Béraud, pour justement faire histoire de cet effroi. 2019, c'est donc, vous l'avez dit, le procès Prena et Barbarin. Et puis on est évidemment dans l'effet de souffle du mouvement MeToo. Adèle Haenel donne son entretien à Mediapart le 4 novembre. Et à ce moment, Il y a déjà des scandales qui ont éclaté aux États-Unis, en Australie, au Chili, en Allemagne, en Pologne, mais d'une certaine manière, la France, ou en tout cas l'épiscopat français, se croit épargné.
Oui, il y a une histoire, enfin il y a des histoires nationales de cette question des violences sexuelles et de l'éclatement du scandale qui sont à faire pays par pays. Et effectivement, le premier pays qui est traversé par plusieurs vagues de scandales, c'est les États-Unis. Hein, la première vague, c'est le milieu des années 80 avec un prédateur qui a fait des dizaines et des dizaines de victimes en Louisiane. Et ensuite, il y a comme ça plusieurs vagues de révélations. On se souvient de celle du début des années 2000 avec la révélation des journalistes du Boston Globe. Et puis, il y a encore une vague récente avec la Pennsylvanie, oui. Hein, qui d'ailleurs suscite une réaction du pape François lui-même en 2018.
On va en parler. Mais là, fin 2018, justement, la conférence des évêques de France et la conférence des religieuses et religieux de France, eh bien, mandate cette commission. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça se passe? Elle est entièrement indépendante?
Alors, peut-être dire que les évêques sont rattrapés par le scandale. C'est-à-dire que ils avaient connu une première vague de révélations des scandales au début des années 2000. Ils avaient pris un certain nombre de mesures et justement, ils pensaient s'en être mieux sortis que les épiscopats américains, australiens, irlandais, autrichiens, allemands. Et en fait, ils sont rattrapés par l'affaire Prena et progressivement, ils sont contraints de prendre un certain nombre de mesures et notamment de mettre sur pied ce qui a été fait justement dans d'autres contextes nationaux, une commission indépendante pour porter un regard de vérité sur l'ampleur du phénomène et formuler un certain nombre de préconisations.
Il y a 22 membres, il n'y a ni prêtres, ni associations de victimes d'ailleurs, qui vont être évidemment auditionnés, mais elles n'en font pas partie.
Non, c'est le choix de Jean-Marc Sauvé, qui lui-même est une personnalité dont l'indépendance...
L'ancien vice-président...
Voilà, aux fonctionnaires, avec une sorte de rigueur et d'exemplarité morale qui a été plusieurs fois rappelée. Et donc, c'est à cet homme-là qui ensuite organise, enfin constitue sa commission et reçoit aussi de l'épiscopat et de la Conférence des religieux et religieuses de France des moyens pour faire travailler cette commission qui est composée de collègues historiens, sociologues, politistes, anthropologues, et puis aussi des théologiens, des psys, etc.
Ouais, et c'est ce rapport qui est d'ailleurs en ligne, hein, 2400 pages, c'est extraordinaire, hein, il faut le dire, c'est poignant, il y a aussi, on va y revenir, des témoignages, auditionnés donc une cinquantaine d'experts, vous l'avez dit, entendu 250 victimes parmi 3000 identifiées, il y en a 1600 qui l'ont été identifiés par un appel à témoignage, mais il y a aussi ce qui nous intéresse comme historiennes et historiens, les archives, les archives catholiques qui en ont révélé beaucoup. Et au total, la masse quand même est très impressionnante. Au total, il y aurait eu des années 50, surtout aux années 70, on va y revenir, il y a une chronologie, 216 000 victimes et on peut même dire 330 000 si on ajoute aux prédateurs les laïcs bénévoles des paroisses. Et ça, c'est quand même un choc.
Oui, c'est un choc qui réside probablement dans la force de la façon dont ont travaillé Sauvé et sa commission, c'est d'avoir mis au centre de leur travail les victimes et les témoignages de victimes. Justement, c'est ces personnes qui avaient tenté de se faire entendre, soit à titre individuel, soit en se constituant en association de victimes. La parole libérée, c'est pas la première association de victimes. Hein. Il y en a qui se constituent dès la fin des années 90, dès le début des années 2000, et l'épiscopat les considère gênantes, hein, ces associations. Et donc là, enfin, on les entend. Et donc, c'est bien sûr une force considérable qui donne une légitimité toute particulière à ce travail, au-delà de sa légitimité académique.
Vous êtes Céline Béraud, une sociologue du scandale, je l'ai dit, enfin de ce scandale-là, des abus sexuels dans l'Église, mais vous êtes aussi une spécialiste des questions de genre et de sexualité. Vous avez publié cette même année 2021 chez Fayard « La bataille du genre ». Et ce que vous montrez, c'est qu'au fond, c'est un effet boomerang. C'est que l'Église, elle a depuis une quarantaine d'années, mais avec l'ACMÉ 2012, c'est-à-dire la manif pour tous, l'Église, elle a politisé les questions de genre et de sexualité.
Oui, elle est prise d'une certaine façon à son propre piège, oui, hein, sur ces questions-là. Le moment des scandales sexuels vient mettre un terme au moment du mariage pour tous, qui a vraiment été prégnant dans le catholicisme français de 2012 aux années 2015-2016. Il y met un terme puisque le scandale porte en lui-même une forme de disqualification morale de la parole des clercs, des évêques, en
oui,
particulier parce que celle de Barbarin, bien évidemment.
Oui, bien sûr, parce que la manif pour tous, c'est quand même le pôle le plus conservateur.
Oui, et qui mettait en avant la défense des droits de l'enfant. Souvenez-vous, c'était cette rhétorique-là qui avait été rhétorique séculière d'ailleurs, enfin ou du moins d'apparence sécularisée, qui avait été mise en avant. Donc une fois le scandale éclaté, il y a une disqualification très forte de ce type de position,
moral,
de discours public. Il y a un autre élément aussi de retournement d'une certaine façon, c'est que c'est le pôle le plus conservateur, c'est-à-dire celui qui avait construit sa normativité en l'affichant comme étant la plus respectueuse du magistère romain, et en se positionnant tout particulièrement sur les questions de sexualité, c'est-à-dire à la fois de sexualité des laïcs, avec justement la mise en avant d'une sexualité légitime exclusivement dans le cadre du mariage hétérosexuel ouvert à la procréation, mais aussi la sexualité des clercs, dans un processus de resacerdotalisation, en réaffirmant la grandeur et la nécessité du célibat.
Et puis, ça va encore plus loin, c'est pour ça qu'on va régresser dans l'histoire, on va s'intéresser justement à l'histoire de la cléricalisation, vous venez de le dire, Céline Béraud, parce que, au fond, ce qui est en jeu, vous le dites bien dans votre livre, le catholicisme à l'épreuve des scandales sexuels, ce sont les modalités d'exercice de l'autorité au sein du catholicisme.
Oui, au-delà et on le voit dans les débats qui animent aujourd'hui le catholicisme français, au-delà de la question de la protection des victimes, de la nécessité de prendre des mesures préventives, mieux former clergé, multiplier les accords avec les procureurs, donc avec la justice, on voit qu'il y a une demande de changement autour de la question du rapport aux prêtres, autour des formes de division du travail religieux, notamment de la place des femmes, et aussi autour de la sexualité.
Histoire 2, Patrick Boucheron sur France Inter.
Bon, ben, l'heure est grave, on a besoin d'un médiéviste. Arnaud Fossier, vous voulez bien être ce médiéviste
pour... Je veux bien me dévouer.
Ben oui, parce qu'il faut éclairer cette histoire longue de la cléricalisation, ce scandale. Vous êtes un historien du scandale.
Absolument.
C'est du scandale médiéval.
Tout à fait. C'est une notion extrêmement importante parce que c'est celle qui fait le lien entre l'Église d'aujourd'hui et l'Église médiévale. C'est une notion qui est centrale dès le XIIe siècle dans le droit canonique et pour l'institution ecclésiale.
Eh bien, on en parle tout à l'heure.
Not the same if we're mine.
Il y a le feu dans le catholicisme français. Pas étonnant si de nombreux catholiques ont pris l'incendie de Notre-Dame de Paris qui a eu lieu en 2019, toujours cette même année 2019, comme une métaphore terrible de la crise de l'Église qui est peut-être entrée dans sa phase terminale. Mais qu'est-ce qui brûle ? Est-ce seulement la flèche du 19e ou toute la charpente médiévale ? Pour en parler, eh bien, nous recevons un médiéviste, Arnaud Fossier, qui est maître de conférence à l'Université de Bourgogne, spécialiste du droit de l'Église, du pouvoir pontifical, de la justice au Moyen-Âge, et qui va donc donner, je dirais, de la profondeur historique à ce nom de scandalum, de scandale. C'est vraiment un mot-clé pour les procédures canoniques du Moyen-Âge.
Absolument. Absolument, et c'est pas seulement la notion de scandale elle-même, qui en soi pourrait être neutre d'une certaine manière, mais c'est l'évitement du scandale, qui, dès la période médiévale, et plus particulièrement dès le XIIe siècle, c'est-à-dire au lendemain de cette grande réforme que connaît l'Église à ce moment-là, la réforme grégorienne, c'est cette préoccupation d'éviter le scandale qui habite vraiment l'Église, qui habite le droit canonique, et qui est une notion que l'on retrouve encore aujourd'hui très présente dans le droit canonique contemporain également.
On doit éviter le scandale, quitte à renoncer à la vérité de la justice, comme le préconise le canoniste Bernard de Parme au milieu du XIIIe siècle. Ça veut dire, dès qu'un clerc se vautre dans la luxure ou dilapide les biens de l'Église, bah, c'est un mauvais exemple, mais on doit d'abord faire en sorte qu'on ne le sache pas.
Absolument, c'est ça que désigne le scandale, c'est le mauvais exemple donné par les clercs aux fidèles, aux ouailles, aux chrétiens. Et c'est ça qu'il faut éviter. Pourquoi ? Parce que ce que ça menace, alors il n'y a pas de préoccupation pour les victimes de la délinquance cléricale. Ce que ça menace, c'est tout l'édifice ecclésiastique. C'est l'institution elle-même qui est menacée par le scandale. C'est donc pour ça qu'il faut l'éviter.
Donc on va faire des enquêtes discrètes. On va préconiser la pénitence ou l'admonestation fraternelle.
Oui, exactement.
Ça veut dire quoi ? Ça veut dire ce que font d'une certaine manière, ou ce qu'ont voulu faire, Céline Béraud, les évêques aujourd'hui. C'est-à-dire quelqu'un qui a péché, un prêtre, entre quatre yeux, on lui dit c'est pas bien.
Oui, ce sont des modes de correction. Effectivement, le terme discret est le bon. On peut aussi aller jusqu'à dire secret, puisque certaines de ces procédures sont secrètes, notamment, alors on y reviendra sans doute, mais notamment quand ça passe par le secret de la confession, le fameux secret de la confession. Donc là, on est au cœur du secret. Mais il y a aussi des procédures, disons, discrètes, des procédures de correction qui sont dites fraternelles, donc des moyens disciplinaires qui permettent de contourner la sanction publique, qui, elle, serait ravageuse pour l'institution.
Alors le scandale, évidemment, pour vous, Céline Béraud, c'est une catégorie sociologique. Donc c'est pas le scandalum théologique médiéval, c'est ce qui peut, au contraire, faire advenir publiquement une vérité de l'institution.
Et susciter des changements.
Oui.
Ça, c'est le scandale, il est porteur de transformation sociale. Et c'est vraiment ça qui m'a intéressée dans la recherche que j'ai conduite, c'est de voir combien toute une série de demandes de changement qui sont pas nouvelles, hein, qui trouvent leur origine dans les débats autour de Vatican II et dans la réception de Vatican II. Cette question de la sacralité ou non du prêtre. Cette question de la place des laïcs par rapport aux prêtres. Ces questions de sexualité également.
Oui, alors la sacralisation du prêtre, d'une certaine manière, vous parliez de la réforme grégorienne. Arnaud Fossier, peut-être faut-il expliquer à nos auditeurs de quoi il s'agit, ce grand partage entre les laïcs et les clercs.
C'est ça, vous l'avez dit, c'est le principal effet de cette réforme, c'est d'instituer une séparation très forte entre les clercs d'un côté qui sont, on va revenir sur la question du célibat, mais qui à plusieurs titres se retrouvent auréolés d'une véritable sacralité, et les laïcs d'un côté qui sont caractérisés, eux, par le mariage. Donc ce qui est très intéressant dans cette division entre clercs et laïcs qui s'opère donc au XIe, XIIe siècle, c'est que c'est une division qui est largement fondée sur la question de la sexualité. Donc on voit que déjà dès cette époque, la question sexuelle est centrale pour l'Église et pour sa définition même.
Céline Béraud.
Oui, il y a dans la sacralisation du prêtre et dans sa mise à part Et mis à part dans une situation de supériorité, il y a la question du célibat qui, bien évidemment, joue un rôle important. Il y a probablement aussi ce que dit assez bien Jocelyn Tricou sur le fait que cette idéalisation, cette hyper-idéalisation du prêtre, encore aujourd'hui dans le catholicisme contemporain, conduit à avoir une vision désexualisée du prêtre. Et donc à rendre inimaginable qu'il puisse fauter, et donc très compliqué pour les personnes victimes à pouvoir exprimer un discours de mise en cause du prêtre.
Jocelyn Tricou a publié cette année au PUF « Des soutanes et des hommes oui. », et au fond il éclaire ce qui était un angle mort, hein, des rapports entre les questions de genre et l'histoire de l'Église, c'est-à-dire la masculinité en fait du prêtre, puisque quand vous dites « homme séparé »,« homme sacré », c'est aussi un homme, voilà. Et d'ailleurs, Jean-Paul II, qui a resacralisé, resacerdotalisé le prêtre, là aussi, on l'a un peu oublié, virilisé. En tout cas, lui, dans son image publique, il avait, en tant qu'athlète
de la
foi,
voilà,
qui avait terrassé le communisme. Donc, il y a tout ce mouvement-là. Et donc, Arnaud Fossier, du point de vue médiéval, évidemment que ces histoires sexuelles, elles intéressent le médiéviste. Mais est-ce qu'on peut utiliser comme ça, par exemple, le terme de pédophile, de crime pédophile? Est-ce qu'il est applicable au Moyen-Âge? C'est compliqué.
Très compliqué pour plusieurs raisons. Bon, disons-le tout de suite, la catégorie est anachronique, c'est-à-dire qu'elle n'existe pas dans les textes médiévaux, dans les sources médiévales. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que les gens ne se définissent pas par une orientation sexuelle, quelle qu'elle soit. Et puis, la deuxième raison, c'est que l'enfance elle-même n'est pas conçue comme elle l'est aujourd'hui, en tout cas aux yeux de l'opinion publique, qui est la nôtre dans nos sociétés. L'enfance n'est pas perçue comme un âge devant être protégé, et notamment devant être protégé sexuellement. Alors, un livre récent très intéressant en fait état, c'est-à-dire que il existe, on trouve dans les sources médiévales, des affaires de pédocriminalité, c'est-à-dire des viols d'enfants qui sont sanctionnés et fermement punis par les justices, notamment par les justices séculières. Ce livre, c'est le livre de Didier Lett.
Oui, viol d'enfants au Moyen-Âge. Donc, c'est une enquête qui repose sur des registres de la justice pénale à Bologne. Et entre 1343 et 1474, il y a 80 hommes qui sont accusés d'abus sexuels sur plus de 130 enfants. Mais ce que vous dites, au fond, Arnaud Fossier, c'est que ce qui est en cause, c'est évidemment surtout pas le consentement de l'enfant, c'est ce qu'on pourrait appeler, avec Jocelyn Tricou d'ailleurs, dont vous parliez, le script naturaliste. Hein, qu'est-ce que ça veut dire?
Oui, c'est tout à fait ça. Donc, le phénomène de pédocriminalité existe au Moyen-Âge, mais il n'est pas qualifié ou catégorisé de cette manière-là. Pourquoi? Parce que, alors c'est ce que vous venez de dire à l'instant, la question pour l'Église, la préoccupation principale, même à la fin de la période médiévale, c'est quel acte sexuel a été commis. Et en gros, il y a un partage entre les actes sexuels qui sont considérés comme contre-nature, donc qui sont des transgressions d'une gravité et d'une atrocité totale aux yeux de l'Église, et aux yeux de, mais même aux yeux d'ailleurs des pouvoirs séculiers, des pouvoirs laïcs. Hein. Et puis, de l'autre, la catégorie très mince, celle-ci, hein, des actes sexuels qui sont permis, autorisés et légitimes.
En fait, ce que dénonce l'Église, c'est la transgression de lois dites naturelles qui séparent, par exemple, les générations ou les sexes.
Oui, et c'est ce qu'elle appelle, alors, pour la période médiévale, une fois de plus, toute cette série d'actes condamnables qui sont très transgressifs parce qu'ils transgressent les lois de la nature et ils transgressent l'ordre voulu par Dieu. La catégorie qui englobe tous ces actes transgressifs, c'est celle de sodomie. Oui. Donc il y a un sens beaucoup plus large que celui qu'on lui donne aujourd'hui. Et dans cette catégorie de sodomie viennent se classer les violences sexuelles à l'encontre d'enfants ou d'adolescents, mais aussi les relations sexuelles entre personnes de même sexe.
On est bien d'accord, Céline Béraud, que là, on fait un détour médiéval, mais c'est pour éclairer, je dirais, l'imaginaire, et plus que l'imaginaire, l'institution, en fait, de l'Église aujourd'hui, qui, peu ou prou, fonctionne quand même sur un droit, le droit canon qui est fixé à ce moment-là. Le secret de la confession, c'est Innocent III au début du XIIIe siècle. Donc tout cela est encore actif dans l'Église d'aujourd'hui.
Oui, c'est toujours actif et d'ailleurs c'est ça, parmi les préconisations du rapport Sauvé, il y a un certain nombre de préconisations qui ont trait justement à des réformes du droit canonique. Mais ce que je voudrais dire par rapport à la catégorie de pédophilie, il me semble qu'elle n'est pas non plus opératoire pour évoquer cette question des violences sexuelles. D'abord parce qu'on sait qu'il vaut mieux parler de pédocriminalité comme l'a fait Arnaud à l'instant, mais aussi parce que moi, le scandale que je vois éclater, il porte aussi sur des violences sexuelles qui ont été exercées sur des adultes. Et ça, c'est un peu un angle mort du débat actuel. Et en tous les cas, c'est vraiment un angle mort total chez les évêques.
Sur les religieuses, notamment.
Oui, voilà. Donc, les religieuses, mais aussi des séminaristes, donc femmes et hommes. Les évêques ne parlent jamais de ces violences sexuelles sur adultes. Jamais. J'ai dépouillé un certain nombre de leurs discours. C'est un angle mort total. Et il y a aussi la question des relations sexuelles librement consenties, qui participe aussi du scandale. Ça, c'est Sodoma. C'est ce que révèle Frédéric Martel, qui monte de manière...
Toujours en 2019.
Toujours en 2019. Toujours à ce même moment paroxystique, d'une certaine façon. Ce premier moment, puisqu'on en connaît probablement un autre aujourd'hui. Et ce que montre très bien, ce qui est très intéressant dans le bouquin de Martel, c'est de montrer que, finalement, se tiennent par le secret, à la fois des sexualités qui sont condamnables par la justice, mais aussi des sexualités qui sont condamnées par l'Église, par exemple une sexualité entre hommes d'église ou entre un homme d'église et un autre homme, qui sont pas du tout condamnables par la justice, mais qui le sont. Et donc, voilà.
Il avait justement dit dans ce livre, enfin révélé, que ceux qui avaient une double vie homosexuelle parmi les cardinaux romains étaient ceux qui s'illustraient...
Qui étaient les plus homophobes.
Voilà, par des déclarations publiques d'une homophobie effrayante. Alors Arnaud Fossi, on parlait justement du sacrement de la confession, à propos du secret de la confession, qui est au cœur, vraiment du rapport Sauvé. Écoutons le propos de Mgr Éric de Moulin-Beaufort, c'était le 6 octobre, au micro de Marc Fauvel sur France Info.
Alors la confession doit rester secrète, le secret de la confession restera parce que ça ouvre un espace de parole libre.
Même pour ces
Alors,
sujets-là.
Il faut que nous regardions de très près la recommandation de la recommandation de la CIAS, qui est assez précise, assez subtile, assez nuancée.
C'est-à-dire que la confession n'obéit pas aux lois françaises. C'est un endroit où ce qui se dit, normalement, il y a une obligation. Si je dis à ce micro, Monseigneur, j'ai été victime ou témoin de quelque chose, vous avez le devoir d'aller voir un policier ou un gendarme. Ce que vous dites, c'est que le secret de la confession, aujourd'hui, est plus fort que les lois de la République.
Est-ce que la confession s'impose à nous et il s'imposera
Elle est plus forte que les lois de la République.
Et en ce sens-là, il est plus fort que les lois de la République.
Bon alors après, il y a eu une petite explication de texte avec le ministre de l'Intérieur et l'archevêque de Reims a demandé pardon d'ailleurs pour cette formulation maladroite. Mais ça pose quand même un problème épineux et je dirais qu'en tant que médiéviste, vous n'êtes pas dépaysé, Arnaud Fossier. C'est vrai que d'une certaine manière, la confession dans le droit canon, elle porte un secret qui est inviolable et absolu.
Oui et non, parce que ce que je trouve intéressant dans cette déclaration choc, alors je m'exprimerai évidemment pas sur le plan juridique contemporain, mais ce dont témoigne cette déclaration, c'est une méconnaissance totale en fait de l'histoire de sa propre institution, c'est-à-dire que le secret de la confession, premièrement, c'est une invention assez tardive, c'est-à-dire que pendant 12 siècles, la confession n'est pas secrète. J'exagère un petit peu, disons qu'il y a des modalités qui sont mises en place dès le 6e, 7e siècle, c'est vrai, mais le secret de la confession comme obligation faite au pasteur dans l'optique qui est la leur d'entendre les fidèles donc confesser leurs péchés, c'est une invention qu'on peut dater en gros de la fin du 12e, encore là pour le coup une conjoncture très intéressante aussi, à la charnière du 12e et du 13e siècle, et ce secret de la confession, il est précisément inventé d'une certaine manière pour éviter à certains clercs corrompus ou eux-mêmes corrupteurs, d'une certaine manière, pour éviter que leurs méfaits se sachent. Et puis, la deuxième chose sur cette méconnaissance de l'histoire de l'institution, c'est que dès le XIIIe siècle, l'Église elle-même brise ce secret de la confession dans un certain nombre de cas qu'elle juge, elle, très graves, et notamment les cas d'hérésie.
Bien sûr. Que vous avez étudié. Et sur le plan civil, Céline Béraud, on peut dire du secret de la confession que c'est un secret professionnel comme les autres, comme ceux des avocats et des médecins, donc il n'est pas absolu. Il y a l'article 226.14 du Code de droit pénal qui précise que le professionnel en question a la possibilité et non l'obligation de le lever, notamment s'il a connaissance de sévices infligés à des mineurs.
Tout à fait, tout à fait. Et c'était un propos, le propos d'Éric de Moulin-Beaufort était particulièrement malheureux dans le contexte des débats sur le séparatisme qui visait, qui pointe du doigt régulièrement les musulmans. Et là, on avait une façon de réactiver d'une certaine façon, soit maladroite, soit volontaire, de réactiver une forme de guerre des deux France et donc d'opposition entre.
Alors, maladroite ou volontaire? Parce que, d'une certaine manière, aujourd'hui...
C'était une forme de diversion, indéniablement, qui, en revanche, concernait, à mon avis, ne devait pas prendre la place qu'elle a prise dans les débats, parce que cette question de la confession, elle est quand même très, très minoritaire. Un des prêtres avec qui je m'entretiens pour le livre, il dit, de toute façon, pédophile ou pas, plus personne ne se confesse en France aujourd'hui, et c'est vrai qu'il n'avait pas tout à fait tort.
Écoutons Jean-Marc Sauvé, justement, qui pose la question de ce que les évêques vont retenir de ce rapport Sauvé.
L'Église n'a pas été en capacité de voir et d'entendre. Elle n'a pas su, pas voulu, pas pu, pas su capter les signaux faibles qui émanaient des victimes. Quand elle a été informée, en réalité, on l'établit, de 4% seulement des agressions, puisque les enfants ont rarement parlé, ont peu parlé. Quand ils ont parlé, c'est aux parents, et que les parents n'ont pas toujours fait remonter les informations. Mais l'Église avait assez d'informations pour prendre des mesures. Elle a surtout, en réalité, pendant très longtemps, cherché à se protéger, à protéger sa réputation. Et elle n'a pas su, notamment, mettre les enfants hors de la portée des prédateurs. Et donc, voilà, nous disons qu'il n'y a pas eu, je dirais, d'entreprise criminelle avec des réseaux de complicité, mais qu'il y a, en fait, tout un ensemble de défaillances, de négligences, de défauts de vigilance qui conduisent, même en l'absence de fautes personnelles caractérisées, à dire que l'Église catholique est responsable à la fois collectivement et aussi individuellement vis-à-vis de chaque victime.
Alors, quelles conséquences? Nous enregistrons cette émission le 5 novembre, donc les évêques vont prendre des mesures, mais la question que vous posez déjà dans votre livre, Le catholicisme français à l'épreuve des scandales sexuels, c'est de savoir si ce scandale, justement, va être levé ou au contraire relancé par le rapport Sauvé.
On voit qu'il est relancé.
La
réponse est évidente. Aujourd'hui, il est relancé, et par différents biais qui viennent un peu bousculer les frontières internes de la pluralité du monde catholique. C'est-à-dire qu'il y a à la fois des figures qui réclament du changement depuis longtemps. Je pense à quelqu'un comme Anne Soupa, Christine Pedotti, pour ne citer que ces des noms. Il y a les associations de victimes, mais il y a aussi toute une série de jeunes catholiques qui parfois ont été propres du mouvement de la Manif pour tous et qui se sont mobilisés sur les réseaux sociaux avec un hashtag « Mon Église aussi ».
Et puis, vous faites, Céline Béraud, l'histoire du catholicisme français, je dirais, à la fois en longue durée et dans une perspective comparée. Ça a commencé plutôt en Allemagne, et là, l'exemple allemand, il n'est pas très favorable à une réforme de l'Église, puisque un des plus libéraux des cardinaux allemands, qui s'appelle Marx, le cardinal Marx, c'est pour ça que je m'en souviens peut-être, vient de démissionner, enfin a démissionné il y a quelques mois en disant il n'y a rien à faire en fait.
Eh bien, c'est à la fois le modèle allemand, c'est quand même un exemple que pourraient suivre les évêques, c'est-à-dire que l'épiscopat allemand est quand même a été beaucoup plus attentif à redonner une forme de crédibilité à l'Église catholique en associant les laïcs qui sont aussi beaucoup plus puissants en Allemagne dans un chemin synodal, un chemin très ambitieux qui a suscité beaucoup d'espoir, mais qui aussi s'est heurté aux résistances d'un certain nombre d'évêques qui refusent toute forme de changement. Et le cardinal Marx, il propose sa démission au printemps dernier au pape François, qui d'ailleurs la refuse, et il la propose en disant finalement, je suis dans l'impasse parce que aucun changement ne va pouvoir avoir lieu à cause de ces résistances-là. Et donc il renvoie d'une certaine façon, il renvoie à l'échelon supérieur qui est à l'échelon romain.
Vous êtes médiéviste, Arnaud Fossier, vous en avez vu d'autres des crises de l'Église, mais celle-là, elle est quand même très sévère.
Oh, j'aurais du mal à me prononcer sur l'avenir de l'institution. On peut quand même dire que sa pérennité est quelque chose de fascinant pour tout historien. Sa pérennité à travers les siècles est quand même quelque chose de fascinant. Oui.
Oui, mais alors, dans ce cas-là, je vous propose de ne pas terminer sur la pérennité de l'Église, mais sur la parole des victimes. Comme on a commencé cette émission, je le disais, le rapport Sauvé donne beaucoup de témoignages, évidemment anonymés, mais bouleversants. Je vous en lis un pour terminer, qui s'appelle « Le crime parfait ». C'est le crime par lequel l'auteur a presque toutes les chances que sa victime ne parle jamais, ou en tout cas jamais, dans la période pendant laquelle la société considère que les faits ne sont pas prescrits. C'est évidemment une victime qui parle et qui ajoute « Les muets parlent aux sourds. Le muet, c'est moi. Les sourds, c'est vous. Et la société, ceux qui ne peuvent pas parler, rencontrent ceux qui ne veulent pas entendre. » Merci Céline Béraud et Arnaud Fossier.
Merci beaucoup Patrick Boucheron.
Merci, cette émission a été préparée par Ophélie Vivier, réalisée par Xavier Pestugia. La technique était assurée aujourd'hui par Loïc Frapsos. Vous retrouverez toutes les références bibliographiques que nous avons citées sur le site de France Inter, à la page de notre émission. La semaine prochaine, nous parlerons de Joséphine Baker avec l'autrice Catel. Bon dimanche sur France Inter.